Bienvenue sur Culture Fit, l'émission culturelle à 360 degrés. Vous êtes bien sur la radio GACO, l'émission produite et réalisée par les étudiants du DUT, gestion administrative et commerciale de l'IUT du littoral de la Côte d'Opale située à Saint-Omer. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver avec les chroniques qui ont des sujets culturels très variés. Nous allons commencer par Roman, qui va parler des conséquences du streaming. Nous ferons ensuite un point cinématographique avec Océane. Avec Marie, nous ferons un point réseau social. Avec Hippolyte, nous parlerons du théâtre et le tourisme face à la crise sanitaire. Puis, je finirai par la crise pétrolière. Alors, Roman, parlez-nous des conséquences du streaming.
Bonjour à tous, c'est Roman Sinav. On se retrouve sur Culture Flip pour vous présenter ma chronique à portée thème les conséquences des plateformes de streaming ainsi que des séries télévisées sur l'économie. Nous allons débuter par l'info Wahoo, qui aura pour sujet le Z-Event. En effet, c'est un événement qui s'est passé du 16 au 18 octobre 2020. Cet événement avait pour but de réunir plus de 40 streamers. Qu'est-ce qu'un streamer ? Un streamer est une personne qui se filme sur une plateforme de streaming comme Twitch, YouTube ou Facebook Gaming pour discuter avec ses abonnés ou bien pour jouer à un jeu ou faire une autre activité. On avait pu retrouver ces 40 streamers chez eux ou dans le bâtiment en question pour récolter une somme de 5,7 millions d'euros en faveur de Amnesty International.
Mais qu'est-ce que Amnesty International ?
Amnesty International est un événement mondial composé majoritairement de bénévoles qui œuvrent en faveur du respect des droits de l'être des humains internationalement reconnus. Sur les 5,7 millions d'euros récoltés, plus d'un million venait de la vente de t-shirts qui étaient vendus sur le site officiel du Z-Event à un prix de 25 euros. Les 5,7 millions d'euros ne viennent pas totalement de la poche des streamers, puisque ce sont les spectateurs, les viewers, comme on appelle nos amis les Anglais, qui ont offert à ces streamers pour cette cause. Pour donner envie aux spectateurs de faire des dons, on a pu retrouver plusieurs objectifs en cas de palier atteint pour ces dons. On a retrouvé par exemple le « je me rase complètement les cheveux » ou bien « je m'inscris au permis de conduire » ou bien un concours pour remporter des lots. Pour mon avis, je trouve cet événement très intéressant, puisque l'on voit ces streamers pendant 72 heures essayer de récolter un maximum de dons en faveur d'une association choisie. Enfin, cela permet d'améliorer l'image du gamer ou du geek, comme on peut l'appeler parfois. Ça permet de réunir un maximum de personnes sur une passion commune, qui est le jeu vidéo. Puis, si vous voulez jeter un coup d'œil au best-of, je vous invite, car il y a de la joie ainsi que de la bonne humeur garantie. Pour mon deuxième sujet, on va parler d'Antoine Griezmann, qui a participé à un live le 13 avril 2020 en faveur de la Croix-Rouge avec Gotaga, Dogby ainsi que Squeezie.
Et qui sont Gotaga, Dogby et Squeezie ?
Gotaga, de son nom Corentin Hussein, est le joueur à l'heure actuelle le plus titré sur la scène e-sport de Call of Duty. Dogby, qui est un streamer youtubeur, est notamment connu comme étant le meilleur ami de Gotaga, ainsi qu'un commentateur qu'on peut voir assez fréquemment sur des événements, comme par exemple des compétitions Fortnite ou d'autres. Puis Squeezie, de son prénom Lucas Auchard, est un youtubeur, maintenant apparemment streamer, qui fait des vidéos, qui a commencé par le gaming, qui maintenant parle un peu de tout, qui parle de thread, d'horreur ou de vidéos assez marrantes qu'on peut retrouver sur sa chaîne, à plus de 10 millions d'abonnés. Ils ont joué pendant plus d'une heure sur le jeu Warzone, connu grâce à Call of Duty, où chaque kill, chaque élimination, avait pour conséquence de donner une certaine somme envers la Croix-Rouge. Au total, plus de 30 000 euros ont été collectés pour la Croix-Rouge avec l'aide de ce personne que j'ai cité précédemment. J'ai trouvé le concept intéressant, puisqu'on retrouve des stars du monde, comme par exemple Antoine Griezmann, avec une autre image de lui qu'on peut voir à la télé comme quelqu'un de sérieux, et au final on le voit derrière sa caméra, qui est quelqu'un de très gentil, qui a le cœur sur la main. Et ça fait plaisir pour le monde du football de voir des personnes comme celui-là. Puis, on va parler de la série Emily in Paris, qui est sortie sur Netflix le 2 octobre 2020. Pour les personnes qui ne le savent pas, Emily in Paris, ça raconte l'histoire de Emily, qui vient de Brooklyn et qui va emménager à Paris, et qui va lui arriver une aventure incroyable au cœur de la capitale. Avec la sortie de cette série, Un restaurant a connu une augmentation de sa clientèle. En effet, le restaurant Terra Nera, qui est dans le 5e arrondissement, et on le voit très souvent dans la série, puisque c'est l'endroit le plus principal où Emily va passer son temps. Habituellement, ce restaurant ne reçoit que des membres, ou voire la plupart du temps, des membres du Sénat, comme le dit Valerio, l'un des propriétaires du restaurant. On peut constater que le fait que un restaurant connaisse un impact au niveau de sa clientèle, la sortie d'une série est incroyable, car on ne le constate pas tout de suite, mais Netflix ou une autre plateforme de streaming peut avoir d'innombrables conséquences sur notre économie. Donc, je vous invite à aller visiter ce lieu important de la série.
Pouvons-nous avoir l'adresse de ce restaurant afin que nos auditeurs puissent s'y rendre?
En effet, ce restaurant est à l'adresse la suivante, le 18 rue des Fossés, Saint-Jacques, à Paris, dans le 5e arrondissement. Pour terminer, on constate que son confinement a eu un impact économique sur les magasins, en causant pour certains leur fermeture, mais a permis aux plateformes de streaming de connaître un impact économique incroyable, que ce soit en leurs abonnements ou au taux de visite qui ont été augmentés. C'était Roman Sinaf pour Culture Flip.
Merci Romain. Maintenant, passons à un petit point d'actualité cinématographique avec Océane.
En effet, un petit pas cinématographique.
Et de quoi allez-vous nous parler?
Nous allons voir principalement pourquoi le coronavirus met autant mal les cinémas. Effectivement, en mars dernier, avec l'annonce d'un confinement total en France, les films ont vu leur date décalée, comme par exemple le film After chapitre 2. En effet, After chapitre 1 est un film à succès énorme, notamment auprès des jeunes. C'est un film inspiré par la saga de Twilight. After est un film d'adolescent qui raconte l'histoire d'une jeune fille au nom de Tessa, qui avait déjà planifié tout son avenir. Avec cette planification, ont été totalement chamboulés lorsqu'elle rencontre un jeune homme mystérieux à son arrivée à l'université. Ce film vient de sortir le 14 octobre 2020 en Belgique, mais à ce jour, nous n'avons aucune date de prévue en France, malgré qu'il devait sortir le 17 avril 2020 et qui malheureusement ferait un succès fou dans nos cinémas français, ce qui serait totalement bénéfique pour la France. Mais ne vous inquiétez pas, en attendant la sortie du film en France, je peux vous conseiller la saga entière d'After. Il existe en 5 livres, écrits par Anna Todd, et même Before, c'est ce qui se passe avant l'histoire d'After, bien évidemment. Cela pourrait vous permettre de plonger également dans l'histoire, en attendant bien sûr le film, enfin, c'est beaucoup mieux on va dire. Mais ce n'est pas le seul film tant attendu qui a sa date reportée. Il y a également Mulan, par exemple.
Mais que faudrait-il pour que nos cinémas aillent mieux?
Oulof, nos cinémas de nos jours auraient bien besoin d'un film à gros succès. Car en effet, avec le confinement, qu'ils ont vu leur cinéma fermé pendant 3 mois, ce qui est énorme pour eux, ils ont du mal à remplir désormais les salles de cinéma comme avant le Covid, bien évidemment. Heureusement, les cinémas de nos jours prévoient la sortie de films à gros succès, comme Les Tuches 4, spécial Noël, qui devait sortir pour décembre 2020, en espérant que sa date ne sera pas reportée. Mais également Avatar, et oui, Avatar, au bout d'environ 10 ans, avec son Avatar 1 qui est sorti en 2019, il voit d'autres films sortir, comme par exemple Avatar 2, Avatar 3, 4 et 5, et ce, dans les années à venir, entre 2022 et 2028, en espérant que le Covid ne jouera pas un mauvais tour pour ce film. Mais il y a également Sans un bruit 2, un film d'horreur qui, lui, a fait l'objet d'un report en raison de la pandémie du coronavirus, qui fait que sa date de sortie est décalée à 2021. Et également Fast and Furious, qui fait que sa date de sortie, lui, est prévue en mai 2021, en espérant que sa date ne soit pas décalée. Et en espérant que tous les films que je vous ai cités juste au-dessus, ne voient pas du tout leur date décalée, car ça serait un peu mal pour le cinéma et surtout pour l'économie.
Espérons que les films sortiront vraiment les jours à venir après ce que vous venez de nous annoncer. Mais pour le moment, ils ont tout de même profité des films qu'il y a eu en ce moment au cinéma.
Et non, malheureusement. Pour bien faire, on nous impose un couvre-feu à 21h dans plusieurs départements, ce qui n'avance pas du tout nos cinémas. Car en effet, ils ne peuvent pas faire des séances après 21h. Et c'est très difficile en semaine pour les gens qui travaillent de ne pas aller au cinéma avant. On n'a que le week-end, on va dire. On ne sait pas du tout de nos jours ce que le gouvernement et ce que cette pandémie nous réserve, surtout au niveau économie. Mais cette pandémie a permis un bien fou au film, enfin, au site de streaming, pardon. Avec l'apparition de Disney+, pendant le confinement, avec Netflix et Amazon qu'ils ont vu un énorme succès par rapport aux abonnements, qu'ils ont eu leur abonnement énormément grimper et tout, ce qui est très très bénéfique par rapport à cette pandémie pour ces sites.
Par ailleurs, nous pouvons tout de même aller au cinéma l'après-midi ou regarder des sites de e-streaming.
Et non, car dernièrement, le président Macron nous a annoncé un confinement. Bien évidemment, moins strict que celui d'en mars, mais néanmoins, les cinémas n'échappent pas. Eux aussi doivent fermer leurs portes au public. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas comment les cinémas vont évoluer avec cette pandémie, entre le couvre-feu, le confinement, les dates reportées ou même certaines dates qui ne sont même pas reportées. La pandémie du coronavirus n'apporte rien de bon niveau économie des cinémas, et pas seulement. Ils n'auraient bien besoin d'une bonne nouvelle pour la survie des cinémas. Cela serait dommage si dans le futur nous n'avons plus de cinéma ou devons effectuer des tonnes de kilomètres juste pour se rendre au cinéma le plus proche de chez nous.
Merci Océane. Passons maintenant à un point réseau social avec la plateforme TikTok présentée par Marie qui est un peu enrhumée.
Et oui, aujourd'hui nous allons évoquer un sujet dont vous avez forcément entendu parler, la plateforme TikTok. Ce réseau social chinois, ayant actuellement plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, a explosé depuis sa création en 2017 par ByteDance. À la base, TikTok est une plateforme où des personnes de tout âge montrent leur passion et leur savoir-faire. Principalement utilisée par des adolescents, le but est de créer des courtes vidéos pouvant aller jusqu'à 60 secondes et de les partager à nos proches ou au monde entier. Celle-ci a pris énormément d'ampleur durant le premier confinement. On imagine bien qu'elle va encore se développer avec ce second confinement débutant en octobre 2020. Je suis ici pour vous expliquer en quoi ce réseau social qui a été créé pour montrer ses talents et ses compétences a dévié. Premièrement, ce réseau social s'est fait une petite place au sein du conflit sino-américain. En effet, Donald Trump n'a pas été ravi d'apprendre que, d'après l'administration Trump, TikTok utiliserait les informations et données personnelles de ses utilisateurs pour être une menace pour le pays, jusqu'à être surnommée l'application de « cheval de Troie » pour Pékin. Il a essayé de racheter l'entreprise qui était à la base américaine, connue sous le nom de Musical.ly, et il n'était pas le seul, loin de là, mais celle-ci a été rachetée par le créateur de Disney+, Kevin Mayer, ou Mayer, pas trop. Pour calmer ce conflit, TikTok a essayé de montrer leur innocence, mais rien n'y fait. Donald Trump voulait interdire toute utilisation de cette application.
Mais est-ce vrai?
Nous ne le savons pas. Quoi qu'il en soit, ce conflit a entraîné la suspicion et la méfiance de beaucoup d'autres pays, comme la Suède ou encore le Royaume-Uni. Néanmoins, les élections présidentielles américaines étant passées, nous ne savons pas quelle tournure va prendre cette petite guerre avec Joe Biden. Deuxièmement, TikTok fait peur aux autres applications. En effet, Mark Zuckerberg a annoncé que TikTok était une menace pour la Silicon Valley. Facebook, ayant racheté Instagram, a décidé de créer les réels sur Instagram, une fonctionnalité permettant la création de courtes vidéos à partager à nos proches et ou au monde entier. Ou encore Snapchat, signant des accords avec les géants de la musique.
Ah oui, donc c'est vraiment très similaire à TikTok.
Et oui, cependant, TikTok, étant déjà ancré dans plein de conflits, n'ont pas rétorqué à ces attaques en sachant qu'elles ne peuvent pas dépasser en si peu de temps la notoriété qu'a TikTok aujourd'hui. Maintenant, intéressons-nous au cœur de TikTok.
Qu'est-ce que vous entendez par là, Marie ?
Je veux dire, intéressons-nous à TikTok en lui-même, à ses défauts que les utilisateurs ont créés. Tout d'abord, TikTok a un côté sombre, entre guillemets, évidemment. Les utilisateurs ont créé le « dark side » de TikTok. Venant du monde entier, ces personnes essayent d'effrayer les autres utilisateurs de l'application. Avec des filtres, des musiques et des images effrayantes qui ont été diffusées. Les gens s'en sont plaints, évidemment, ou se sont moqués de ça pour atténuer la peur des plus petits. Et cette communauté, toujours entre guillemets, n'a pas fait long feu sous les projecteurs. Ensuite, nous pouvons y voir de la sexualisation dans les commentaires des utilisateurs. Que ce soit chez les adultes ou les plus jeunes, des psychopathes se permettent de commenter des choses obscènes sous leurs vidéos. Le problème de TikTok est qu'il est libre à tous, donc la sécurité, bien qu'elle soit renforcée aujourd'hui, n'y est encore que peu présente. Le cyberharcèlement est une autre forme de violence aujourd'hui sur TikTok. Beaucoup trop de personnes se font critiquer sur leur physique, sur leur passion et sur ce qu'ils disent. Le cyberharcèlement va jusqu'aux menaces de mort pour une personne de tout âge et il faut cesser cela.
Mais est-ce qu'on y trouve que des aspects négatifs ?
Non, TikTok est une application qui permet un divertissement actif. Elle permet premièrement l'acceptation de soi, de montrer qui nous sommes, ce que l'on fait. Elle a permis à beaucoup de personnes de se lancer dans diverses activités et de commencer leur marque. Bijoutiers, stylistes, sportifs et même professeurs et médecins, tous ont su trouver leur bonheur et développer légèrement ou non leur notoriété. Ensuite, elle permet également le développement des marques déjà connues avec des publicités ou encore des partenariats avec les TikTokers et TikTokeuses qui sont les utilisateurs de TikTok. Cela leur permet d'avoir un public plus varié. Puis TikTok a également fait évoluer le monde de la musique en créant un succès fou pour les chanteurs passant sur l'application, comme Weeknd, Doja Cat ou Lil Nas X ou encore Carla. Dorénavant, les maisons de disques se servent de TikTok pour lancer leurs artistes. Elle permet aussi de faire revivre des anciennes chansons en les remixant, en les imitant ou en les détournant. Enfin, TikTok devient un métier pour certains. En effet, l'application a développé ses petites célébrités parmi les TikTokers et TikTokeuses, suivies par parfois des millions de personnes, et celles-ci peuvent gagner de l'argent en postant leurs vidéos de 15 ou 60 secondes. Deux livres ont été publiés pour cela, celui de William DeMarco s'intitulant TikTok Influenceur, le guide complet étape par étape de 0 à 10K+, et de José Ignacio B. Se nommant TikTok à partir de zéro, stratégie pour les entreprises 2021, guide contenant des informations précieuses sur la façon de gagner de l'argent chez TikTok aujourd'hui.
Merci Marie. Où as-tu trouvé toutes ces informations ?
Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur Le Figaro, CNews, LSA ou encore Le Monde. Merci de m'avoir écouté et je vous invite fortement à lire les deux livres cités précédemment.
Merci beaucoup à toi, Marie. Merci. Je laisse la parole à Romain.
Merci, Lisa, de nous passer la parole. On va passer tout de suite au côté de Hippolyte qui va nous présenter le théâtre et le tourisme estival face à la crise sanitaire.
Avec la crise du Covid-19, de nombreux domaines furent touchés, notamment le secteur du tourisme, mais également le Festival d'Avignon. Alors, comment s'est organisé le monde du théâtre et celui du tourisme avec la crise du Covid-19 ? Nous verrons dans un premier temps l'annulation du Festival d'Avignon et en deuxième partie, le tourisme estival.
Qu'est-ce que le Festival d'Avignon ?
Tout d'abord, le Festival d'Avignon fut créé en septembre 1947. Ce festival est sans aucun doute le plus grand événement de théâtre et du spectacle vivant du monde entier, regroupant le nombre important de créations et de spectateurs réunis. Nombreux de ces lieux historiques, notamment la cour d'honneur du Palais des Papes, ainsi que d'autres bâtiments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Mais est-ce que le Festival d'Avignon a-t-il eu lieu cette année ?
Et malheureusement, non. En 2020, le Festival d'Avignon se devait d'annuler son festival. En cause, la crise du Covid-19 suite à l'annonce du gouvernement d'annuler tous les rassemblements jusqu'à fin juillet. Ce qui a pour conséquence qu'il y a une chute importante de nombre de touristes, ainsi plus d'argent à gagner. Sur un budget de 13 millions, 55% provient des subventions, mais 45% de la billetterie, 3 millions d'euros, pardon, et des partenaires, ou 1 million, lequel pourrait faire défaut. Ce qui montre à quel point les touristes sont vraiment importants pour faire vivre ce festival. Les enjeux sont de taille, car ils sont touristiques, car d'après l'article de Martin Robert, source Les Échos à Paris, l'annulation d'Avignon serait lourde de conséquences, 60% de nos programmes sont étrangers. Quelles seront les autorisations d'entrée et sortie du territoire ? On se pose alors la question s'il faut laisser rentrer les touristes sur le territoire français suite à la crise sanitaire. Mais ces enjeux sont également économiques, car dans ce même article, Quant au territoire, les enjeux sont énormes, avec des retombées du in et du off, estimées à 25 millions d'euros sur la ville et 100 millions pour la région. Jean-Marc Dumonté affirme ne pas y participer, c'est se condamner. Mais y aller, c'est très risqué. C'est assez triste dans cette phrase, car on se sent un peu coupable de ne pas y aller. Mais avec le coronavirus, cela reste toujours dangereux.
Comment s'en sort le tourisme estival à cause du Covid-19?
Il n'y a pas que le Festival d'Avignon qui est concerné par cette crise sanitaire. Le tourisme estival est également touché par cette crise, qui a commencé en avril 2020 suite aux annonces du gouvernement, notamment les restrictions de voyager à l'étranger et de privilégier le tourisme local. L'Hexagone serait alors en manque cruel d'un élément très important, car d'après Christophe Palliers, source Les Échos à Paris, tourisme, une saison estivale en contraste, s'il était et globalement sauvé, l'Hexagone a perdu à ce stade des milliards d'euros de recettes touristiques sur l'année. C'est une carte de France touristique tout en contraste, qui se dessine à la sortie de la saison estivale. On peut également constater que dans l'article Midi Libre Nîmes, une activité en baisse déplorée pour le bilan touristique de cet été. Les secteurs des activités de loisirs, du tourisme culturel, aussi qui ont souffert avec plus de 60% des prestataires mécontents. Mais il y a une conséquence de positif dans tout ça. Les Français voyagent à travers l'Hexagone et apprennent à mieux connaître la France, comme le montre le tourisme sur le littoral Camargue. C'est surtout le mois d'août qui a une fréquentation de ce nom en période estivale grâce à la présence d'une clientèle française.
Quelques mots de conclusion.
Pour conclure sur cette chronique, voici mon avis. Eh bien, à cause de ce Covid, j'ai su comprendre pourquoi les touristes étrangers étaient si importants pour l'Hexagone, car ils représentent une partie importante de l'économie. J'ai pu comprendre notamment quel était l'impact sur tout le secteur du tourisme. Merci à tous et à toutes pour votre écoute.
Merci beaucoup, Hippolyte. On va partir maintenant du côté de Lisa, qui va nous évoquer la crise pétrolière. À vous, Lisa.
Bonjour à toutes et à vous. Mais sûrement, le pétrole a malheureusement connu en cette année 2020 une crise très importante à cause de la pandémie du coronavirus. Les courbes ont chuté de plus de 30% depuis le début de l'année. Cependant, on parle de baisses encore plus violentes dans les mois qui viennent.
Mais où cela peut-il nous entraîner ? Dites-nous tout.
Rappelons avant tout que la pandémie mondiale de la Covid-19 a, comme on peut dire, étranglé l'économie globale, mais plus particulièrement l'économie pétrolière, lors du confinement sanitaire. Les transports aériens et automobiles étaient limités partout dans le monde. À ces conjonctures désastreuses se sont ajoutées des décisions politiques qui ont accentué la chute du pétrole, ce qui a éprouvé un nouveau choc pétrolier. En effet, la rupture qui a eu entre l'alliance de l'Arabie saoudite et la Russie a lancé une guerre des prix. De ce fait, le désaccord entre les deux pays a créé un choc majeur qui a fait chuter du même coup les prix du baril du pétrole Brent prélevé dans la mer du Nord en dessous des $30. La Russie étant la deuxième plus grande production de pétrole après les États-Unis, la crise du coronavirus a donné une grande ampleur à ces oppositions, comme l'évoque Beltran Alain, que vous connaissez peut-être, dans son livre intitulé « Le pétrole et la guerre ». Le pétrole y apparaît davantage comme un révélateur des affrontements, comme une cause ou un enjeu. On y croise bien entendu l'Iran, la Russie et plein d'autres pays. Ainsi, l'offre excédentaire du pétrole est liée aux limitations aériennes et routières. La consommation générale a accouché d'une baisse spectaculaire du prix du baril, ce qui a fait de même engendrer une baisse fondamentale au point que les sommes ont été négociées à des prix négatifs. Vous n'allez pas me croire, en 2020, aux États-Unis, le prix brut du pétrole a atteint moins de $37,63. Cependant, un après-confinement vient redonner goût à la production pétrolière.
Qu'est-ce qu'il en devient en ce moment ?
Alors en ce moment, en septembre 2020, le prix du pétrole en euros se replie. les prix en euros des matières premières importées augmentent de nouveau, du fait que les matières premières industrielles dont les prix augmentent pour la cinquième fois dans le mois consécutif. Ces derniers jours, à New York, les cours de pétrole ont monté. Les États-Unis lancent un nouveau plan de relance. Néanmoins, le marché craint énormément la deuxième vague du coronavirus dans le monde, ce qui étoufferait la reprise des prix du pétrole. Et oui, pour la première fois depuis l'apparition de la COVID-19, l'OPEP admet que la demande de pétrole va plafonner, mais dans 20 ans. Le cartel prévoit une augmentation de 10 millions de barils par jour. L'OPEP voit un retour économique, dite « normal », après cette pandémie, mais aussi un rattrapage pour les secteurs qui ont été le plus touchés économiquement, comme l'aviation, les transports routiers, et bien plus. Même si l'OPEP reconnaît l'évolution de la technologie, le télétravail qui va s'installer dans la durée, ce qui annonce moins de transport, un changement de comportement du consommateur, mais il y aura, selon lui, une divergence accrue entre les pays de l'OCDE, où la demande atteindra un plateau dès 2022 pour décliner en 2025, et les pays en développement où la consommation continuera de croître. Par rapport à la seconde vague de la COVID-19, qui paraît inévitable et plus importante, je pense que l'économie du pétrole remontera pas comme on le voudrait. Les personnes n'auront plus assez d'argent pour partir en vacances, se chauffer et consommer.
Vous en pensez quoi, vous, de tout ça ?
Regardez, on nous parle déjà que le coronavirus sera encore présent l'été prochain. Même si elle viendrait à s'arrêter, elle aura toujours un impact économique sur la durée, qu'on n'arrive pas à réparer facilement. Il faudra des années, selon moi, pour que le pays se redresse.
Merci Lisa. Merci à vous tous et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter notre émission sur notre site web www.studiogaco.fr et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre fil Twitter Gaco Studio. À demain et portez-vous bien.